Chapitre 73. Décembre 2000. Deux mois sans savoir où elle se planque. Emmanuel a cherché Nina partout. Même dans les fossés, sous les lits et à l'intérieur des armoires de la maison. À devenir fou. Il a arpenté toutes les routes de campagne aux alentours, de jour comme de nuit. Il a frappé à des portes au hasard en montrant sa photo. Personne ne l'a vu. Il a demandé au journal de Saône-et-Loire de diffuser son portrait, moyennant finances, avec en légende « disparition inquiétante », ce qui est un mensonge. Nina a écrit la lettre à Adrien, Étienne et Emmanuel afin de bien leur signifier que son départ était un choix. Les deux détectives qu'Emmanuel a engagés ont désormais la certitude qu'elle n'a pas trouvé refuge chez l'un de ses deux amis. Chez Adrien Bobin, nulle trace de Nina. Ni dans l'appartement, ni dans son entourage. Même cas de figure à Lyon. Étienne Beaulieu vit seul et voit peu de monde en dehors de ses heures de travail, à part quelques collègues et des rencontres d'un soir. Qui reste-t-il? Qui a pu la recueillir? En dernier recours, Emmanuel a pensé à la mère de Nina. Il ne sait pas grand-chose d'elle, si ce n'est qu'elle s'appelle Marion Beau et qu'elle est née le 3 juillet 1958 à La Comelle. Avec ça, je peux éventuellement la retrouver, avec son numéro de sécurité sociale, lui a dit un de ses deux enquêteurs, il y a quelques semaines. C'est le cœur battant qu'Emmanuel découvre l'adresse qu'il vient de recevoir par SMS. Je l'ai trouvée. Marion Beau, 3 Butte au Vilain, 14640, Auberville. Emmanuel vérifie aussitôt sur une carte routière. La mère de Nina vit en Normandie. Le bourg se situe près de Deauville. Il connaît bien cette station balnéaire pour y être allé en vacances plusieurs fois. Un deuxième SMS du détective suit. « Voulez-vous que j'y aille ?»« Non. » Emmanuel quitte son bureau et avise ses collaborateurs de son absence. « Mais la conférence téléphonique et vos rendez-vous de... »« Démerdez-vous !» les coupe-t-il. Jamais il ne leur a manqué de respect. Depuis le départ de Nina, il perd pied. Personne ne le reconnaît. Toujours les yeux dans le vague. On murmure dans son dos que « ça va mal finir ». 500 kilomètres qu'il avale sans penser, pied au plancher. Il s'arrête à deux reprises pour faire le plein, boire un café et une barre chocolatée. Lorsqu'il arrive à l'adresse indiquée, il découvre une vingtaine de maisons mitoyennes en préfabriqué. Il est presque minuit. La rue est vide. Quelques réverbères jettent une lumière pâle sur l'asphalte mouillé et les logements sociaux. Un crachin glacé tombe sur son pare-brise. Ici, même en été, il doit faire froid, pense-t-il. Au numéro 3, derrière un rideau en polyester, une grande télévision envoie des rayons lumineux. Marion ne semble pas dormir, à moins que ce soit Nina. Est-ce qu'elle va lui ouvrir la porte dans quelques minutes? Si c'est elle, il va frapper. Il le sent dans ses poings. Il ne la laissera ni parler ni s'excuser. Il la traînera par les cheveux. Elle aura beau hurler, se débattre, quand il la tiendra, il ne la lâchera plus jamais. Il quitte sa voiture en chancelant. Ses jambes ont du mal à le porter. Sans doute la fatigue de ces dernières semaines. Il prend toujours des antidépresseurs, sinon il se foutrait en l'air sans attendre. Mais avant de se faire la peau, il n'a qu'une obsession. Emmener Nina avec lui. Il ne partira pas tout seul. Il pousse un portail défoncé par le temps, dont la serrure semble ne jamais avoir fermé quoi que ce soit. Sonne. Patiente une minute. Une femme aux yeux chassieux ouvre la porte. Elle devait dormir. « Vous êtes Marion ?» Elle ne répond pas. Se demande ce que ce jeune homme beau, classe, aux pompes neuves, fait sur son paillasson usé à minuit. Elle jette un coup d'œil à la voiture de sport qui est garée sous un réverbère, juste derrière lui. Est-ce une caméra cachée ? Patrick Sabatier et ses équipes se pointaient parfois chez des gens comme elle pour faire des surprises et des cadeaux. Comment s'appelait cette émission déjà ? Mais ça ne passe plus à la télé, ce truc. Nina est là ? Finit par demander le beau jeune homme. La question la surprend tellement que Marion Beau articule difficilement. Quelle Nina ? Votre fille. On ne lui a jamais parlé d'elle en ces termes. Votre fille. Quand elle l'a laissée à son vieux, la ch'tite venait de naître. Quand elle pense à elle, c'est comme ça qu'elle l'appelle pour la tenir à distance. Jamais ma fille. Parce que rien n'est à elle, rien ne lui appartient. On l'a dépossédée il y a longtemps. Quand on lui demande si elle a des enfants, elle répond non. Comme ça, on ne lui pose plus de questions. De toute façon, elle n'intéresse personne. Des questions, on ne lui en pose jamais. Je peux entrer ? Marion hésite quelques secondes. Puis elle se souvient que son intérieur est propre, qu'elle a fait le ménage cet après-midi, serpillière et poussière. Alors elle lui fait un signe de la tête. Allez-y. Une odeur de tabac froid. La télévision mange toute la pièce principale. Canapé en simili-cuir gris juste en face, table basse et au fond une cuisine où trône un micro-ondes. « Je suis le mari de votre fille », dit Emmanuel d'un ton abattu en prenant place sur le canapé. Il ferme les yeux. Il a compris juste en balayant la pièce du regard que Nina n'avait jamais mis les pieds ici. Il se sent fatigué, voudrait ne plus bouger. Il vient de s'enquiller plus de 500 bornes pour rien, juste pour se retrouver face à cette femme dont Nina lui avait dit qu'elle était maigre et vulgaire. Elle n'est plus maigre mais gonflée, boudinée, et paraît découragée, dans ses chaussons flétris. « Ah, je savais pas qu'elle était mariée », dit Marion en enfilant un gilet. « Vous voulez boire quelque chose ?»« Si vous buvez avec moi. » Marion sourit, ouvre la porte d'un placard de la cuisine, où sont rangées des bouteilles entamées de sirop Tesserre, pastis, porto et suze. « Sinon, j'ai du muscat au frigo. » « Va pour du muscat. » Elle sert Emmanuel et se verse un peu de vin cuit à son tour. « Vous venez d'où ?»« De la Comelle. » « Ah, c'est bizarre d'entendre parler de là-bas. » « Vous vivez seul ?»« Oui. » « Et pourquoi vous la cherchez ?» Elle ne parvient à prononcer ni Nina, ni ma fille. « Parce qu'elle a disparu. » « Disparu comment ?»« Elle est partie du jour au lendemain. »« Pourquoi elle est partie ?»« C'est ce que je cherche à comprendre. » Emmanuel boit son verre cul sec. « J'en veux bien encore un peu de votre muscat. » Marion le resserre aussitôt et se resserre au passage, un verre presque plein. Elle ne le lui a pas proposé, mais Emmanuel a décidé de dormir sur ce canapé. Il n'a ni le courage ni la force de trouver un hôtel à cette heure dans le coin. Marion, assise en face de lui sur une chaise, l'observe en sirotant. C'est bien. Il a su toucher le point faible. Telle mère, telle fille. Elle a presque terminé de boire le deuxième verre. Remarquez, les chiens font pas des chats. Moi aussi, je suis partie. Votre fille vous a-t-elle donné des nouvelles récemment ? Non, répond-elle comme si elle le regrettait. Elle semble sincère. À votre avis, où est-elle ? Demande-t-il avec l'énergie du désespoir. Marion le regarde comme s'il était fou, ou comme s'il y avait erreur sur la personne. Ne sait-il pas qu'elle l'a abandonné lorsqu'elle avait 2 mois ? Pas abandonné, en fait. Elle l'a confié au vieux. Et quand elle a voulu la récupérer, il était trop tard. Le temps avait passé. Elle marchait et parlait comme une poupée détraquée qui avait grandi trop vite. Elle est retournée la voir à 2 reprises, à embrasser cette petite inconnue. N'a rien ressenti. La gamine appartenait au vieux, et en la lui confiant, Marion a réalisé qu'elle l'avait perdue. Qu'en aurait-elle fait de toute manière ? Cette gosse était bien mieux là où elle était. Le jeune homme assis devant elle et qui entame son 3e verre, sait-il que jamais elle ne l'a vu adulte ? La dernière fois, c'était le jour de l'enterrement du vieux. Marion sent l'alcool lui chauffer le sang. Ça lui fait toujours cet effet-là. Une envie de parler. De vider le trop-plein. Avant, j'étais une fille bien, jolie et tout. J'étais joyeuse aussi, je rigolais tout le temps. Et je travaillais bien à l'école. Faut pas croire que ce qu'on voit. Je connaissais des beaux mots, tout ça. J'avais des bonnes notes. Et puis, ma mère, elle est tombée malade. Pendant 2 mois, je l'ai suppliée de se faire soigner. Mais mon vieux, il a jamais voulu. Et elle disait « mais non, t'inquiète pas, ça va passer ». Il voulait pas qu'elle passe la porte, qu'elle parte, qu'elle aille à l'hôpital. Il voulait la garder que pour lui, qu'elle se fasse soigner dans son lit chez nous. Il appelait le médecin de famille qui était perdu, qui lui donnait les mauvais médicaments. Et moi, je suppliais mes parents. Je disais à mon vieux, « Emmène maman se faire soigner là où ils savent. » Têtue comme une bourrique. Si c'était à refaire, je l'aurais emmené, moi. Ça a duré 1 an. Quand il s'est décidé, c'était trop tard. Elle est morte à l'hôpital. En arrivant. Elle a même pas eu le temps de défaire sa valise. Quand j'ai perdu ma mère, ma tête a vrillé. Ça m'a... tuée. J'ai fait la mauvaise vie. J'ai fait que la mauvaise vie et le mur. Je suis devenue ingérable. Mon vieux, il disait ça. Ingérable. Les gens, les voisins, ils disaient ça aussi. La Marion, elle est ingérable. Tout le monde plaignait le vieux, le pauvre, qui disait tous. Le pauvre enfoiré, oui. Qui est le père de Nina? Elle allume une cigarette, une brune qui empeste. J'essaye d'arrêter, mais ça marche pas. Vous voulez un autre verre? Volontiers. Son père, il est parti loin. Je l'ai eu toute seule. Je vous l'ai dit, je faisais la vie. Mais pas la bonne, la mauvaise. Pourquoi ne pas avoir gardé Nina avec vous? Je pouvais pas. Incapable. Je peux vous demander quelque chose? Oui. Vous avez le numéro de téléphone de... Nina? Oui. Vous pouvez me le donner? Son portable est tout le temps éteint, ça sert à rien. C'est juste pour avoir quelque chose qui lui appartienne. Même si c'est que des chiffres. Emmanuel s'allonge. Je peux dormir un peu? Faites. Elle écrase sa cigarette, observe l'homme allongé sur son canapé acheté en 10 fois sans frais chez Conforama quand elle a quitté Artus. Il avait la main trop lourde à la fin. À force de recevoir des beignes, elle a fini par se tirer. Comme Nina. Pourquoi s'est-elle cassée, elle? Il a pourtant l'air d'un gentil, son mari. Est-ce que ça existe, des maris gentils? Maintenant, pense Marion, je suis tranquille. Je nourris les chats qui traînent dans le quartier. L'été, j'arrose mes géraniums. Je travaille à mi-temps dans une cantine et touche un peu d'alloc. Pas la grande vie, mais quand même. Et plus personne m'emmerde. Des hommes, j'en veux plus. Ni dans mon lit, ni dans ma cuisine. J'ai brûlé mon capital. Mais pourquoi qu'elle, elle est partie? 5 heures du matin. Un chien la réveille. Au fil des semaines, Nina a appris à les reconnaître, les distinguer les uns des autres. C'est Paprika qui vient d'aboyer, un vieil épagneul croisé cocker. Il a la voix cassée de celui qui a trop gueulé. Elle jette un coup d'œil au radio réveil. Pourquoi aboie-t-il si tôt? A-t-il entendu quelque chose ou quelqu'un? D'habitude, les chiens commencent à s'agiter plus tard, quand Lily arrive, suivie des employés et des bénévoles. La machine à peur s'emballe. C'est lui, et les chiens le sentent. C'est plus fort qu'elle. Ses mains, ses muscles, son estomac, tout se contracte, se resserre, se referme. Figée de terreur, elle reste longtemps allongée, les yeux grands ouverts, scrutant le plafond, les sens en éveil, cherchant le moindre bruit inhabituel, finit même par entendre quelqu'un manipuler la clenche de la porte d'entrée. Nina se lève difficilement. Il est 5h35. Elle n'allume pas. Elle fait tout dans le noir. Elle a pris l'habitude de ne jamais allumer le plafonnier, vivre dans l'obscurité. Elle se traîne jusqu'à la meurtrière située dans les toilettes, monte sur la cuvette des WC, tire le rideau. Pas âme qui vive. Ses jambes tremblent tellement qu'elle manque de tomber. Elle se fait chauffer de l'eau. Boire une tisane va la calmer. Elle remonte un peu le thermostat du radiateur, couvre ses épaules. Elle grimpe à nouveau sur la cuvette et observe longuement. Ses yeux fouillent l'obscurité. Tous les chenils sont plongés dans la nuit. Paprika a dû sentir une autre bête, un renard ou un rat. Lily avait raison. Au début, ça remue de voir les animaux dans les chenils. Et puis on finit par s'habituer. La première fois, ils nous regardent comme si on représentait une chance de fuir. Où ils ont tellement morflé qu'ils se planquent toute la journée derrière une paroi qui les coupe du froid et des regards. Après, ils nous voient comme celui ou celle qui va les promener ou les nourrir. Les animaux arrivent de partout, principalement des routes, des forêts et des poubelles. La semaine dernière, 5 ont été retirés d'un élevage défaillant. 2 mois que Nina dort à côté d'eux. La différence qu'il y a entre elle et les animaux, c'est qu'elle n'attend personne pour venir la récupérer. Elle ne veut que la paix. et dès qu'elle entend un moteur de voiture, au lieu de se réjouir, elle se cache. Elle disparaît dans son propre corps. Elle sait qu'Emmanuel la cherche partout. Elle le sent. Elle se réveille chaque nuit en nage parce qu'elle a son odeur dans le nez. Comme s'il était dans la même pièce qu'elle, penché au-dessus de son lit. Lily lui a montré l'avis de recherche qu'Emmanuel a fait publier dans le journal local avec une photo. Elle a découvert avec effroi ce vieux portrait d'elle. Il avait dû fouiller dans toutes ses affaires, cherchant une trace comme on piège une bête lors d'une battue. Il est tellement fou qu'il a dû renifler son linge. Il est capable de tout. Elle le savait depuis longtemps, mais s'en éloigner lui en a fait prendre davantage conscience. Elle a intégré la perversion de son mari. Elle ne peut s'empêcher parfois de culpabiliser. Il était gentil quand je l'ai rencontré. C'est à cause de moi qu'il est devenu comme ça. Quand elle sort ce genre de phrase, Lily lui rétorque avec humour : Je te collerai bien deux paires de claques pour te remettre les idées en place. La seule chose que Nina regrette, c'est de ne jamais être repassée chez elle pour récupérer quelques affaires. Son t-shirt et son pull préféré, ses livres et sa petite boîte de photos. Elle en avait une de ses grands-parents le jour de leur mariage et beaucoup d'Étienne, Adrien, Louise, Joséphine et Marie-Laure. Le jour du départ, tout est allé si vite que Nina n'a pas eu le temps de se retourner. Elle a fait table rase de sa vie en laissant tout derrière elle. Comme quelqu'un qui se tue dans un accident de la route et dont on retrouve le bol de café froid et les miettes du petit déjeuner sur la table chez lui. Le cintre vide un peu en travers, là où il a décroché son manteau à la hâte avant de partir. C'était ce qu'il fallait, ne pas réfléchir. Le jour où Nina et Lily se sont rencontrées, après être sorties de la cafétéria du centre commercial, elles ont regagné le parking où était garée leur voiture. Elles se sont regardées. Lily lui a dit « Vous êtes sûre de vouloir rentrer chez votre mari ? Est-ce que j'ai le choix ? Vous n'avez pas de famille ? Personne. Des amis ? Je pourrais aller chez les parents d'Étienne, enfin, les parents d'un ami, mais mon mari les connaît, il me retrouverait en 5 minutes. » Lily a chargé les conserves de son caddie à l'intérieur de son coffre. Elle a relevé la tête et répondu « Moi, je récupère les chiens et les chats. Il m'est aussi arrivé de sauver des cochons d'Inde et des poules, mais jamais de jeunes femmes. » Nina a souri, pour la première fois depuis que Lily l'avait abordée au rayon fruits et légumes. Une demi-heure après, la Polo était planquée dans un garage cadenassé dont seule Lily possédait la clé, et Nina installée dans sa chambre d'amis. Et puis plus rien, un silence abyssal. « Et maintenant, que vais-je faire ?»« Attendre, » a répondu Lily. Le temps qu'il faudra. C'était comme se retrouver en prison, enfermé entre 4 murs. Sauf qu'en prison, on a droit à des visites, à un parloir une fois par semaine. Pour que les flics ne la recherchent pas, Lily lui a conseillé d'écrire une lettre d'adieu à son mari. Nina l'a rédigée en 3 exemplaires, le même courrier pour Emmanuel, Adrien et Étienne. Quand elle a tendu les 3 enveloppes à Lily pour qu'elle aille les poster, Nina a eu le sentiment de jeter son passé à la poubelle. Ne restait que le vide du présent, tout à construire. 15 jours après son arrivée, le temps de tout nettoyer, Lily l'a installée dans un petit studio situé à l'intérieur du refuge, tout au fond, à l'abri des regards, de tous les regards, même des employés. Comme ça, tu auras ton intimité, et le soir, tu n'auras qu'à traverser la route pour venir dîner avec moi. Nina habite un 20 mètres carrés au confort spartiate dont 2 fenêtres tournent le dos au refuge et s'ouvrent sur la campagne. Seule une meurtrière située dans les toilettes donne côté chenil. C'est dans ce studio que la fondatrice du lieu, Annie-Claude Mignot, a vécu il y a longtemps. Ici, tu seras vraiment chez toi. Il y a une télévision, beaucoup de livres et de la nourriture dans le frigo. Je n'ai rien, Lily. Pas un rond pour te dédommager. Nina a retiré son alliance, son saphir et sa bague sertie de diamants. En les vendant, je pourrais tenir un moment. Garde ta quincaillerie, lui a dit Lily. On verra ça plus tard. Mais quand plus tard? Combien de temps va-t-il falloir se planquer? Elle a rangé ses bijoux dans un tiroir. Lorsqu'elle sort se dégourdir les jambes, elle enfile un blouson à capuche et un jean. Elle a déjà perdu 10 kilos. Plus besoin de boire pour tenir le coup, ni de prendre ses traitements hormonaux qui la désinguaient. Juste un truc pour dormir, sinon elle cauchemar de trop. Lily est allée lui acheter des vêtements et des affaires de toilette. C'est elle qui lui fait ses courses. Depuis 2 mois, Nina n'a pas quitté le refuge. C'est comme si tu cachais une clandestine ou une criminelle de guerre. Sur Terre, il y a 2 endroits pour se planquer. Les cimetières et les refuges. Personne ne traîne par chez nous. Les gens ont trop peur des maladies ou de se faire mordre. Le lieu se situe loin du centre-ville de La Comelle, entre 2 bâtiments désaffectés. Lily est la seule employée à rester toute la journée. Le matin, une dizaine de personnes y travaillent de 9h à 13h, et rares sont les visiteurs qui débarquent sans avoir téléphoné auparavant. Quant à ceux qui viennent balancer leurs clefs sous leur portée de chaton, ils baissent la tête et filent comme des voleurs. Alors pas de risque qu'ils aillent raconter qu'ils ont vu une silhouette à capuche déambuler parmi les chenils. Qu'est-ce qu'on sait des silhouettes qui déambulent dans ce lieu ? Il faut juste se méfier des 2 policiers municipaux qui déposent les animaux trouvés dans la partie fourrière. Ne jamais les croiser. À partir de 13h, quand tout le monde est parti, qu'elle entend la dernière voiture quitter le parking, Nina sort, passe de box en box, caresse, parle. Maintenant qu'ils la connaissent, les animaux lui font des joies, ne se méfient plus. C'est l'une des leurs. Ils ne font pas de différence entre elle et eux. En ce mois de décembre 2000, il y a 32 chiens et 49 chats. Après avoir salué tout le monde, elle partage un sandwich avec Lily dans le bureau, à l'accueil. À l'heure du déjeuner, les grilles sont fermées. Elles sont tranquilles, parlent de tout et de rien, comme de vieilles copines, se donnent des nouvelles de leur monde. « Pourquoi tu fais ça pour moi, Lily ?»« Et pourquoi pas ?»